France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Vincent Segal et je suis né à Reims en Champagne le 27 avril 67 et je suis violoncelliste.
Hier, Vincent Segal nous racontait ses années d'apprentissage au CNSM de Lyon, alors dirigé par Gilbert Ami. Et aujourd'hui, le violoncelliste poursuit sa réflexion à propos de ce lien entre interprète et compositeur.
Si on prend l'arborescence de la musique classique, là on habite à 500 mètres de là où exerçaient Couperin, Louis et François. Le type, tous les jours, il jouait, et c'est des grands compositeurs. Donc après, si on prend Bach, il jouait monstrueux, Beethoven, il jouait même... Et à l'époque, si on lit Adorno, ce que j'adore, on comprend que Beethoven jouait avec les gens qui le payaient, qui lui donnaient de l'argent, comme Mozart. Ou comme... Il jouait avec les gens de la cour, enfin, les gens, leurs employeurs, quoi. Et c'était des bons musiciens, c'est-à-dire que c'était ceux qui prenaient violoncelle. L'archiduc, quand on dit le trio de l'archiduc, c'était, il jouait, je crois, non, il me semble. Tout a changé. On a commencé à faire des grandes salles de spectacle. On a commencé à vouloir demander aux musiciens de jouer tous le même coup d'archet. Avant, c'était pas du tout le propos de jouer ensemble, comme ça, ce truc très... Et le public s'est détaché de la participation. C'est-à-dire, les gens écoutaient la musique, mais la jouaient de moins en moins eux-mêmes. Alors qu'avant, les salons de musique, c'était des endroits où tout le monde participait, mettait la main à la patte. La main à la patte, voilà. Bartok jouait monstrueux. Kagel et Ligeti, c'était super musiciens. Enfin, j'adore Ludwig van, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire c'est une anticipation de notre monde d'Internet. Ludwig van, le film, les gens me disent ça vieillit, je trouve qu'au contraire, on est complètement dedans aujourd'hui. Et j'adore le disque Ludwig van, c'est un disque, il prend des samples, il triture Beethoven, il montre à quel point il y a un truc social du concert, que ce soit le concert de jazz, le concert classique, le concert hip-hop, tous ces trucs-là, c'est structuré par une façon de vivre le monde, quoi. Et on ne peut pas le mettre à côté, donc... J'adore les compositeurs qui disent, voilà, si tu veux venir gentiment jouer avec moi, avec un tel, on monte quelque chose. Et après, si j'ai une commande, je le ferai aussi, mais ça part d'un noyau où la personne, elle joue. C'est l'essence de la musique. Quand je prends les partitions des quatuors de Bartok, je suis émerveillé par l'intelligence de tout, quoi, et de la sensibilité. Il y a une pièce qui n'est pas connue, qui est une pièce pour piano où il parle d'un étang, et on entend des crapauds. Et en fait, il y a un truc écologique de cette pièce. Et il a écrit cette pièce avant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve ça génial, parce que c'est comme Malheur. Les gens se moquaient de Malheur avec ses cloches de vache et ses... Ce fait qu'il s'isole dans une cabane, dans la nature. Mais ça respire la nature, sa musique. C'est ce que, moi, la différence que j'ai avec Strauss, pour ça, c'est ça. C'est-à-dire que Mahler, ça respire les gens autour de lui, les villages. À chaque fois que je vais en Autriche, je ressens ce truc. Par exemple, j'adore Schoenberg, mais il n'y a pas du tout ça chez Schoenberg. C'est plus justement comme Boulez, cette espèce de figure de la personne qui doit bien faire son travail, qui a une grande connaissance historique, qui a une grande connaissance sociale de la pratique musicale, mais qui veut surtout bien faire les choses sans avoir l'air d'être débordé par la ville, l'atmosphère naturelle, les montagnes, les animaux.
Et quelque chose d'un peu étanche.
Voilà. Dans Un survivant de Varsovie, j'aime beaucoup cette pièce, mais ce qui me gêne, c'est les coups de cymbales. Je trouve que c'est comme s'il tuait le ghetto une deuxième fois. Parce que pour moi, ces coups de cymbales, ça symbolise Vienne autoritaire, l'armée, les trucs. Et même Schoenberg, il ne peut pas s'empêcher de mettre des coups de cymbales à la fin. Quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup choqué parce que j'étais là, mais non. Kurt Weill, c'est ça que j'aime chez Kurt Weill, c'est qu'il vire tout ça et il dit, voilà, on vive la décadence, vive ce monde où on n'est pas strict et obligé d'être hyper raide. Et à part ces œuvres de jeunesse, j'adore Schoenberg, j'écoute beaucoup les œuvres pour piano aujourd'hui, j'avais du mal à les écouter avant, j'adore les versions de Pollini, tout ça. Enfin, mais je trouve qu'il y avait une aridité où j'étais honnête, contrairement à des amis qui me disaient j'adore Schoenberg, mais quand j'allais chez eux, ils n'écoutaient jamais Schoenberg. Hein. Et puis moi qui suis collectionneur de disques, tous mes disques de Schoenberg ou mes disques de Boulez que j'adore, c'est des disques que je trouve neufs chez les disquaires. Quand je trouve un disque de Bartok, il a été ruiné. Ça veut dire que les gens l'ont écouté, écouté, écouté. Un disque, par exemple, de Boulez, des sonates pour piano, souvent, il est nickel. Si vous en trouvez un qui est rayé comme un disque d'Elvis Presley, c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire que peut-être c'était le disque de Claude Elfer, ou je sais pas, ou de...
Cette ouverture que vous allez sentir à Liège, et vous avez réussi, Vincent Segal, à faire éclore une petite classe du coup au CNSM à Lyon. Je crois qu'après, voilà, vos études se terminent au CNSM et vous allez partir avec une bourse au Canada.
Ouais.
Est-ce que là aussi, le Canada, la Belgique, c'est pas la France, c'est vous découvrez du coup d'autres cultures, d'autres manières de vivre la musique dans l'institution musicale. Est-ce que là aussi, dans cette école-là...
Pas pour le Canada, c'était pour le principe de l'école. Enfin, c'était même pas une école, c'était Banff Fine Arts Center. Et en fait, c'était dans les montagnes rocheuses. C'est un peu comme Shining. On est isolé l'hiver, il n'y a que des artistes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'ils appelaient InterArt, qui n'existait pas en France. C'est-à-dire que quand on était pris, en fait, on avait d'abord une période de 6 mois où on était en immersion totale, juste les boursiers. Et en fait, il y avait autant de photographes, céramistes, artistes plasticiens, musiciens, cinéastes, danseurs. Et on avait tous des huttes incroyables. Enfin, ils appelaient ça des huttes. Mais... J'étais isolé dans ma hutte. Et quand je rentrais dans le centre, je rentrais dans le centre. Mais si, par exemple, Jim Jarmusch venait une semaine, je pouvais, qui était un cinéaste expérimental que personne ne connaissait encore à l'époque, ou Michael Snow. Quand Michael Snow est venu, j'ai passé une semaine avec Michael Snow à parler cinéma, d'art contemporain, de free jazz, parce qu'il avait travaillé avec Albert Ayler, quand même. Et ce qui était génial à BAM, c'est que n'importe quelle personne pouvait aller voir n'importe quel artiste qui était en résidence pour le rencontrer, travailler, parler de ses problèmes. Et je pouvais jouer des choses de violoncelle à un céramiste, par exemple. Et je lui disais, voilà, je voudrais vous jouer ce que je travaille en ce moment et je voudrais avoir votre avis. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et aussi, ça, c'était mon côté roublard. J'avais vu qu'il y avait Dave Holland et tout, Steve Coleman et tous ces jazzmen qui étaient profs là-bas aussi. Donc je me suis dit, il doit y avoir un moyen de les rencontrer. Et évidemment, j'ai rencontré des gens canadiens et américains qui m'ont dit, ouais, Vincent, il faut que tu fasses autre chose que... Et pourtant, la première chose que j'ai fait là-bas, c'était rencontrer Pal Eder. Mm-hmm. C'était Eder Quartet. Et en fait, j'étais content parce que je me souviens que c'était Menahem Pressler qui faisait les classes. J'ai joué une sonate de Brahms avec... Je crois que c'était Laurence Contini. Il y avait aussi Marie-Josée Jude. On était tous ensemble 6 mois. Et en fait, après, Eder, ils sont venus me voir en me demandant « Est-ce que tu veux jouer le quintet à deux violoncelles avec nous ?» J'ai dit « Ah ouais, mais ça, je joue. J'ai joué avec M. Penassou et tout. » Et c'est pratiquement une des dernières choses que j'ai fait en classique de ma vie. C'était jouer avec eux à BAMS. Ensuite, j'ai rencontré Edgar Meyer, qui est un grand contrebassiste américain, qui jouait beaucoup de bluegrass, beaucoup de musique. Il joue avec des tas de gens. Enfin, c'est une sommité de la contrebasse. Et c'est lui qui m'a encouragé, qui m'a dit « Ouais, tout ce que tu fais, c'est bien, il faut juste que tu travailles un peu plus ton langage personnel. » Et les gens autour de Michael Snow aussi, c'est-à-dire il y avait un groupe qui s'appelait CCMC de Toronto. C'était des free jazzman, vraiment free, quoi. Dès que je commençais à jouer un gimmick qui était déjà joué archi rabattu, ils disaient « Arrête ton truc. »
France Musique, les grands entretiens de Vincent Segal.
Mais le violoncelle, Vincent Segal, à part un Fred Katz, c'était quand même pas non plus l'instrument le plus jazzy qui soit, oui. Le solo violoncelle.
Oui, mais Fred Katz, c'était une de mes références. Enfin, j'adore Fred Katz et j'adorais sa démarche de musicien classique et de pas chercher à changer son, mais de jouer avec Dolphy, par exemple. Jouer avec Chico Hamilton. J'adore le quintet, je trouve que c'est très novateur parce qu'il y a ce côté musique de chambre et en même temps, il ne cherche pas à faire swing, à swinguer comme un jazzman, il reste violoncelliste. Mais en fait, très vite, je me rendais compte que ce n'était pas spécialement l'idée du jazz qui m'intéressait. L'idée, c'était de jouer de plein de manières avec le violoncelle, c'est-à-dire aussi bien de la pop, du rock, expérimental, enfin tout. C'était mon outil, quoi. Donc suivant un projet ou...
Bam. Et d'oreille, vous quittez le monde de la partition écrite en fait.
Oui, il y avait beaucoup de choses de tradition orale, c'est vrai. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes, on dit natifs américains, qui m'ont emmené de là où ils venaient, dans les réserves et tout. Jouer dehors, ça m'a servi toute ma vie, ça, l'idée de jouer dans la ville ou dans la nature.
Alors après, Vincent Segal, vous revenez à Lyon.
Oui.
C'est fini. Mais c'est fini, ça commence en fait, c'est
ouais,
ça.
Oui, bah, j'avais un vague troisième cycle avec deux places qui étaient engrangées en venant pour me permettre d'atterrir. Là, j'ai recommencé, pour des raisons alimentaires, à refaire vraiment la musique de chambre et jouer à l'opéra. Avec Kent Nagano, c'est hors les murs. Tout de suite, j'ai senti que si je faisais ça, c'était perdu. Donc... J'ai dit à ma petite amie qui est devenue ma femme, et je lui ai dit, écoute, même si on va perdre pas mal d'argent, parce que je gagnais quand même pas mal d'argent avec tous ces trucs de musique de chambre et d'opéra, j'ai dit, ouais, j'arrête tout. Et je reste à Paris. Mes deux plans, c'était d'aller dans les clubs de jazz, voir ce qui s'est passé, et de sortir mon violoncelle et essayer de jouer. Et tous les gens que je rencontrais dans les soirées à Paris ou dans la rue, avec Pierce Faccini, je me souviens, on jouait dans la rue.
Dici t'ancella sta compagna vostra che ha già perduto suono fantasia che pensa sempre che è tutta vita mia e ciò volesse riuscire ma non ci saceri. A voglia bene, a voglio bene assai, dici tence la vuoi, che non mi scordo mai. È una passione, più forte una catena. Ma tormenta l'anima e non m'ava campare.
Adolescent, grâce à un ami qui est toujours très cher, qui s'appelle Didier Mur, et qui, avec son Gisèle Blanc, ils étaient tous les deux, ils avaient un truc qui s'appelait Mur Blanc, et quand j'étais adolescent, ils m'ont imprégné de galeries et de vie parisienne nocturne. J'étais déjà à Lyon, je venais de rentrer à Lyon, mais... Je me souviens, Didier m'a présenté Jean-Michel Basquiat, Futura 2000, qui est resté toujours un ami hyper important pour moi. Et les premiers graffeurs et rappeurs, c'est grâce à eux. Et ça m'a imprégné. Et Futura 2000, il a été intrigué par mon violoncelle. Il m'a dit, ouais, je veux te faire un tableau de celliste à la bombe, comme ça. Il faisait ça, mais monstrueux. Et lui, il m'a présenté les Clash, parce qu'il tournait avec les Clash à l'époque. Les Clash l'avaient engagé pour graffer derrière les Clash.
Vous n'avez pas de violoncelle électrique à l'époque ?
Non, ouais. Pas du tout. Et grâce à Futura, j'ai connu Agnès B, qui nous a connus jouant dans la rue. Une espèce de musique expérimentale, moitié funk, moitié folk, moitié classique, avec Pierce.
Avec Pierce, c'est ça.
Et avec des copains de l'époque du graff, quoi, des copains de la bande de Futura. Et Agnès, elle nous a soutenus tout de suite. Et c'est devenu vraiment une amie. Sur toutes ces années, elle a toujours été présente. Après, je suis allé au Sunset. Et là, je suis allé voir Jean-Paul Célia, qui jouait. Et qui m'a dit, viens demain chez moi, à Pigalle. Je vais écouter ce que tu fais et tout. Et il m'a donné une paire de gifles musicales en disant, ça, c'est n'importe quoi, ça, c'est nul. Ça, les harmonies, t'es complètement à la rue. Ton tempo est bien, mais...
Et vous lui jouez quoi à ce moment-là ? Vous improvisez ?
Oui, j'essayais d'improviser. Mais
sur différents modes ?
Des grilles, des standards, la musique indienne m'intéressait beaucoup. Mais je faisais ça n'importe comment. Et ça m'a donné un coup de fouet énorme. Jean-Paul a été génial. Avec sa dureté habituelle, il a été extraordinaire. Puisque, enfin, quelques années après, je jouais avec lui, avec Armand Angster, on faisait Donatoni, contrebasse, violoncelle. Enfin, il m'a juste redonné une espèce de voix, il m'a fait un garde-fou disant, voilà, fais attention à ça. Et du coup, ça m'a permis d'avancer avec une certaine rigueur. Lui et Glenn Ferris, ils m'ont beaucoup aidé à ce moment-là dans les clubs. Je dirais que les deux personnes qui m'ont aidé à ce moment-là, c'était Glenn, qui m'a demandé de jouer en trio avec lui, contrebasse, violoncelle, trombone. Et Glenn avait enregistré avec Stevie Wonder, avec les frères Breaker, avec Average White Band, avec des groupes africains, avec Youssou déjà à l'époque, avec des grands jazzman. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur comment être en studio, comment chorusser, comment lire la musique rythmique.
Très précis.
Oui. Après, il était prof au CNSM bien plus tard, mais là, à cette époque-là, je trouvais gamin par rapport à Jean-Paul ou lui, ou même Dominique Pifarelli. Des gens, ils m'ont tous bien encouragé. Et après, j'avais mes connexions africaines. Ça, c'était ces mêmes années. Rido Bayonne, tous les musiciens Étienne Mbappé, tout ça, et des musiciens traditionnels qui vivaient en banlieue que j'allais voir. Je faisais des mariages, des baptêmes, et la musique sénégalaise, Doudou Ndiaye Rose, on jouait. Ça, c'était bien avant que je connaisse Balaké. Tout ça m'a formé et m'a permis après de commencer à vraiment vivre de ça sans... J'ai jamais travaillé de ma vie, en fait. C'était que du bonheur. Enfin, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de choix. Tout vient comme des fractales.
Alors je me demandais quelle était la place, Vincent Segal, pour le violoncelle avec vous-même, parce que j'ai le sentiment quand même que ces musiques que vous allez épouser, qui sont en effet fractales, il y en a énormément différentes, elles valent parce que vous les partagez avec d'autres.
Oui.
L'inspiration et l'improvisation, c'est quand même finalement quelque chose qui se fait davantage ensemble que seul.
Oui.
L'improvisation seule, oui. On tourne plus vite en rond.
Oui, c'est vrai. Pendant le confinement, j'ai fait pas mal de concerts tout seul parce que, par exemple, à Lausanne, ils m'ont dit, oui, on voudrait que vous veniez jouer tout seul devant le lac Clément à 6h. Il y avait plein de gens, plein de gens écartés, évidemment. Mais... Et dans ces cas-là, en fait, j'ai refait à Munich peu de temps après et en fait, ça m'ennuie de jouer tout seul comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je faisais une tombola, je mettais plein de papiers de pays, de trucs de classiques. Je mettais tout ça dans un chapeau et je demandais aux gens de tirer. Comme ça me faisait un programme... sans avoir à dire, ouais, je vais jouer tout seul. J'aime pas l'idée de jouer et d'improviser tout seul pendant une heure et demie au violon. Enfin, j'ai vu ce genre de concert, à part Portal, que j'avais vu une fois, ou Joël, Léandre, que j'adore quand elle est toute seule. Mais c'est difficile comme exercice. Mais par contre, composer et créer, par exemple, Black Alley Show, Blazing Arrow, c'est un disque. Pendant des mois, j'étais avec XL, le DJ, et tous les deux, on crée. Et là, je sais que ce disque-là, il y a. C'est toutes ces années-là, ça a servi à créer ce genre d'atmosphère que j'aurais jamais pu. Parce que là, jouer électrique, basse, guitare, violoncelle, acoustique, faire. Et en fait, pour moi, c'est compositeur par défaut, mais c'est hyper important. Ou Bomcello, par exemple. Tout ce qu'on fait avec Cyril, tout est fait en dilettante, mais en même temps, quand j'écoute les 8 disques, je me dis, ouais, la musique, elle est quand même spéciale. C'est pas la musique pop habituelle, c'est pas non plus la musique expérimentale. Il y a quand même qu'un violoncelle électrique et une batterie quasiment tout le temps.
Quand est-ce qu'il arrive, ce violoncelle électrique?
Ah, il arrive grâce à Oliver Johnson, qui était un batteur qui jouait avec Steve Lacy, qui m'écrit en me disant, voilà, on est sur un projet d'album signé par une major, est-ce que tu veux venir enregistrer? Et je suis venu, on a fait cet album, il y avait Mixmaster Mike qui est devenu le DJ des Beastie Boys après, il y avait Eric Bobo qui fait partie de Cypress Hill, mais c'était vraiment le début de cette espèce de jazz hip-hop. Et ça se passe très bien. Et donc après, ils me disent, ouais, il faut qu'on tourne. Et moi, je jouais avec mon violoncelle acoustique, mais ils jouaient tellement fort que c'était galère. Ils m'ont dit, il y a une compagnie à Auckland qui fait des violoncelles électriques, qui s'appelait Zeta. Ils te proposent de te filer un violoncelle, parce que si tu jouais avec la tournée avec le violoncelle, ça les arrange et tout. Donc, ils m'ont donné l'instrument. Ça a changé pas mal de choses dans ma vie, parce que j'ai pu faire des projets avec Cyril, avec Julien Leroux, Olympique Gramophone, des choses comme ça, parce que j'avais ce violoncelle électrique. Sinon, avec le violoncelle acoustique, j'aurais pas pu jouer avec eux. Et ça m'a servi aussi pour tout ce que je faisais en rock et en hip-hop. Green light now begin. La baie, San Francisco, c'est un peu comme le Brésil avec Nana Vasconcelos. C'est le Brésil de Nana et ça m'a donné une énergie pour jouer avec, je sais pas moi, Cesaria Evora. Tout ça, c'est grâce à Nana Vasconcelos.
Et quand vous le rencontrez, Nana Vasconcelos, c'est déjà quelqu'un de très important pour vous.
Au début, je le connaissais pas plus que ça. Oui. C'était avec Jean-Marie Machado, avec qui je rejoue maintenant. 30 ans après, on se retrouve parce qu'il était fâché, parce que justement, j'étais parti, pas fâché, mais... Je l'ai planté un peu parce que Nana m'a demandé de partir avec lui aux États-Unis ou au Brésil et donc je devais jouer avec Jean-Marie et lui. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec Nana, donc c'était pas très bien. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un truc un peu tordu, mais qui m'a servi énormément parce qu'avec Nana, je connaissais rien de la musique brésilienne, absolument rien. Nana savait que je jouais avec beaucoup de musiciens africains, il m'avait vu jouer avec Doudou Ndiaye Rose et avec des musiciens sénégalais et ça lui plaisait beaucoup. Il adore le violoncelle parce qu'avec Milton Nascimento, tout ça, ils ont fait beaucoup de choses avec des cordes. Enfin, il adorait Jacques Morlembaum, enfin, tous ces musiciens à cordes brésiliens. Ça a été comme un père. Il m'a donné cette espèce de don d'organiser des choses pour me faire découvrir toute l'Amérique du Sud. On a fait toute l'Amérique du Sud avec lui. Même à New York, je veux dire, il y a encore une semaine, j'étais encore avec Ciro Batista, toute la bande de Sadiq, Zorn, tout ça, c'est grâce à Nana. Tout ce que Nana m'a donné, c'est extraordinaire. J'aurais pas pu enregistrer avec Cesaria Evora si j'avais pas connu Nana. Carlinhos Brown... Barbatruques, tous ces gens-là incroyables. Et puis, il m'a donné une leçon d'éthique de vie musicale, sans jamais donner des cours, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est quelqu'un de tradition orale, mais il m'a appris tellement de choses sur comment jouer, comment être en studio, comment... Il m'a fait connaître des Parisiens, Sarava, Pierre Barou, j'aurais pas connu Areski, Brigitte, tout ça, enfin, c'est par Nana. Et finalement, on a pu jouer une fois avec Balaké et lui au Brésil avant qu'il meure. À l'église de Olinda, dans sa ville natale. Et c'était un grand bonheur de me retrouver avec la kora et l'arc, le berimbau de Nana, qui est quand même l'origine de tous les instruments à cordes du monde, parce que le premier instrument à cordes, c'est un arc, voilà.
Ouais.
Nous retrouver tous les trois. Et puis Nana, c'est quelqu'un qui m'a fait connaître Jobim. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec Lucas Santana, il y avait un autre ami brésilien que je n'avais pas revu depuis des années. Il me dit, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais à Jazzmania quand tu as joué avec Nana. Il y avait Miocha, il y avait Caetano Veloso. Et je me souvenais de cette période, j'étais là, mais c'est dingue. Parce que souvent, je me disais, mais comment il arrive à organiser ses concerts? Mais lui, il payait avec son argent à lui qu'il avait gagné avec Paul Simon ou Pat Metheny. Mais je ne me rendais pas compte à l'époque. Je pensais que l'argent tombait du ciel. Mais en fait, non, il nous logeait. J'habitais chez lui à Chelsea. Enfin, c'était quelqu'un de dément. Et puis en plus, il a joué avec tout le monde. Je veux dire, il a joué avec Chet Baker, des grands jazzman. Tous les grands musiciens brésiliens le connaissaient. C'est-à-dire de Jobim, Jean Gilberto, Milton Nascimento. Il y a des moments où on voit en duo avec Milton, mais c'est sublime. Et en même temps, il connaissait les rappeurs. Il aimait pas trop que je les ramène chez lui dans l'appartement. Je me souviens deux fois, je suis venu avec mes copains rappeurs. Il m'a dit non, franchement, Vincent, non, mon appartement, tu ne le ramènes pas. Donc j'ai dit à mes copains, écoutez, on se retrouvera chez vous, mais dans le Bronx. Mais Nana, il aime bien son calme quand même aussi. C'était un mystique. Thank you.
avec Nana Vasconcelos que se referme le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Vincent Segal. Réalisation Christine Amado. Prise de son Christophe Papon. Mixage Benjamin Vignal. Attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.